Vous écoutez
RMC.
On commence avec les GG. Le déballage médiatique de l'affaire Kenji Girac vous choque-t-il ? Hier, le procureur de la République de Mont-de-Marsan a déballé toute la vie du chanteur pendant une conférence de presse, notamment sur sa vie privée et sur ses addictions, ce qui a choqué la famille de Kenji Girac, mais également l'ancien policier des GG, Bruno Pomard.
C'est une question de déontologie, je dirais, oui. De la part de ce procureur. Je trouve qu'il a dépassé les bornes, comme on dit. Il aurait dû factuellement dire les éléments concernant cette enquête, ça c'est une chose. Revenir, comme l'a dit Olivier, sur l'arme, il va falloir savoir d'où vient cette arme, ce qu'elle a pu faire en historique. Et ça va être une véritable question. Mais vraisemblablement, ça n'a pas l'air de l'intéresser. Ce qui a l'air de l'intéresser, par contre, c'est d'étaler la vie privée de Kenji Girac. Tout le monde s'en fout.
Ah non, non. Il y a trois jours que tout le monde.
Mais non, mais moi je m'en fous de la vie privée de.
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on le dise publiquement.
Oui, qu'on le dise publiquement.
C'est une affaire privée.
Oui, mais donc ça ne regarde personne.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi, pour faire court, la thèse aujourd'hui, c'est la tentative de suicide loupée parce que Kenji Girac était très fortement alcoolisé ce soir-là, qu'il était sous cocaïne également. Qui se disputait régulièrement depuis quelque temps avec sa compagne dont il a un enfant et que il y aurait eu dispute, elle menaçait de le quitter et pour bref drame passionnel j'allais dire pour éviter qu'elle ne le quitte ou en tout cas qu'elle revienne vers lui.
Il aurait voulu semblant de se suicider. Bon. Il ne savait pas que le
et ça tout ça tout ce qu'on
que l'arme était chargée.
C'est vrai que ça a été exposé longuement par le procureur de la République.
Mais pas
hier.
Mais pas le
procureur qui dit aussi que Kenji Girac précise que Soraya est la femme de sa vie.
Exactement.
C'était surprenant.
En fait, il y a eu un déballage, le procureur s'est cru sur closer.fr sans se préoccuper de l'impact que ça aurait pu avoir sur les proches de Kenji, sur Kenji lui-même, qui certes a eu un accident, l'enquête le dira, mais a quand même tout de même le droit de garder certaines parties de sa vie privée. Mais c'est un phénomène qu'on observe souvent dans ce genre d'affaires médiatiques, d'avoir des procureurs ou des juges qui se retrouvent mis sur le devant de la scène et en pleine lumière, et ça donne lieu parfois à des dérapages ou à certains manquements. On l'a vu pour l'affaire Outreau, on l'a fait pour l'affaire du petit Grégory. Cette mise en lumière soudain de ces magistrats ou de ces personnes de la loi qui les fait un peu péter un plomb en fait.
Yael, t'as pas l'air d'accord.
Non, du tout. Ce ne sont plus des éléments privés. Ce sont des éléments qui viennent contextualiser cet acte violent. C'est un acte violent. Si on rajoute à cela qu'il semblerait que ce soit un chantage qui a été fait à sa compagne, on est vraiment dans de la violence psychologique. On rajoute à cela, parce qu'on a de plus en plus d'éléments qui sont portés à notre connaissance, où apparemment il était dit dans le camp que la femme de cet individu était trop féministe et qu'elle avait manifesté la volonté de le quitter. On s'inscrit vraiment dans un...
À l'égard de la communauté...
On s'inscrit vraiment dans une situation de violence où le conjoint ne supporte pas d'être dépossédé de sa chose.
Est-ce qu'on a besoin de savoir, nous?
Puisqu'il y a eu un acte qui, au départ, était problématique. Enfin, on n'en connaissait pas l'origine. Donc, le procureur a fait une conférence pour donner toute la lumière sur ce qui s'était passé.
Dans ce cas-là, on peut faire un peu plus bref. Voilà, c'est une affaire.
Il aurait pu dire, on s'oriente vers une piste d'une tentative de suicide
ratée.
Volontaire.
Sans donner la couleur du siège.
Volontaire ou non. Et puis, en tout cas, il n'y a eu à aucun moment intervention d'un tiers.
Voilà. Oui, retracer toute l'histoire d'amour de Kenji et sa compagne, c'est beaucoup trop.
Le procureur a commis cette erreur de vouloir répondre à cette couverture médiatique absolument.
Il aurait pu être plus bref, plus succinct.
Incroyablement démesuré, qui a eu. Enfin, je veux dire, moi, j'en ai absolument rien à faire dans l'absolu de ce fait divers. Hein, voilà. Mais il y a une couverture médiatique telle que peut-être que le procureur s'est senti obligé d'y répondre.
Je vais prendre beaucoup de recul sur des grands principes, j'allais dire légaux de notre système de droit. C'est une affaire, effectivement. Alors, elle n'est pas criminelle, mais c'est une affaire de. Il y a usage d'armes à feu. On est dans une procédure. On est dans une forme d'instruction. Tout d'abord, le secret de l'instruction. Peut-être qu'une fois que l'affaire est terminée, il peut écrire un livre. Mais le principe de la conférence de presse en plein milieu de l'affaire, en révélant.
Le procureur, les parquets, le procureur.
Donc je te dis que le principe de la conférence de presse, et alors Monsieur Molins, je me souviens avec son petit accent méridional qui nous expliquait la suite des attentats. D'accord, ça concernait l'opinion publique puisque c'était un fait terroriste.
Quand même, oui.
D'accord, mais là c'est une affaire strictement privée. On est dans la presse, on est dans la presse de Ringo, de la part d'un magistrat. C'est même pas, voilà, c'est le parquet. C'est, donc, il représente le ministère de la Justice. De donner ce point de détail, quelle que soit l'affaire. Ça aurait été un cheminot de Valenciennes qui se serait tiré accidentellement, ou un charcutier de Valence. Il y aurait rien eu. Péricole. Il savait que c'est un personnage.
Alors, comment t'expliques que depuis 48 heures, on en entend parler non-stop?
Je te dis que ce n'est pas normal.
Voilà, parce qu'on a affaire à une personnalité publique.
Mais d'accord, mais que les médias veuillent faire de l'audience avec un fait
c'est pas parce que j'ai dit et que je trouve que le procureur a dû faire preuve d'un peu plus de réserve et de discrétion que j'étais pas devant la conférence de presse comme tout le monde a regardé parce que j'avais envie de savoir. C'est une critique objective.
Pourquoi une conférence de presse avec un magistrat?
Parce qu'on a affaire à une personnalité publique.
Mais voilà. Non, mais ça justifie pas en termes de droit,
absurde. Les GG, l'école Sciences Po est-elle à la dérive? On l'évoquait un peu tout à l'heure.
Oui.
Alors qu'elle fait face à une crise de direction, la prestigieuse école publique Sciences Po, créée en 1872, est actuellement occupée, bloquée par des manifestants pro-palestiniens. Mais pour la coach de vie des GG, Joël Dagosseri, ce blocage au sein d'une école est inacceptable.
L'école, c'est pour apprendre. Voilà, moi j'aime bien quand un lieu est dédié à quelque chose de très clair, c'est pour apprendre. À partir du moment où vous bloquez un lieu et que vous bloquez sa destination, enfin ce pourquoi ce lieu est fait, alors je suis désolée, vous devez sortir. Moi j'ai bien conscience qu'une école supérieure, une fac ou Sciences Po, c'est une école où aussi on apprend à apprendre, mais aussi on apprend à penser, on apprend aussi à débattre, etc. Donc c'est important que ce soit aussi des lieux où on puisse échanger. Et ça c'est normal. Par contre, il est hors de question que ce soit un lieu qui soit bloqué. Puisque là, il n'y a plus d'échange. Si tu bloques cette école, c'est que tu refuses le débat, tu refuses l'échange.
Bien sûr.
Donc, dehors.
Enrico Legas.
Il y a l'actualité sur le conflit au Proche-Orient. Ça fait 20 ans que Sciences Po est devenu un repère idéologique, gauchiste. C'est-à-dire que, et c'est vrai dans toute éducation, les élèves ont décidé qu'ils rentraient dans l'acte. Ils sont amenés un jour à prendre des décisions politiques, à gouverner le pays, à prendre des responsabilités publiques. Et les gamins se disent, je vais tout de suite commencer mon rôle. Et donc, on est dans le débat politique, on s'invective.
Attends qu'ils envahissent pas la Sorbonne ou qu'ils aillent pas dans la rue, là, ce n'est pas les CRS, ça va. Heureusement que ça n'est jamais arrivé.
Non, mais en 68, on envahit la Sorbonne, et puis une fois qu'elle est évacuée parce que le conflit est terminé, on reprend. Là, c'est devenu un foyer de propagande gauchiste.
Ça durait un mois.
Mais c'est ce que je te dis. Il s'agit d'école des sciences politiques. Donc voilà. Donc, j'en veux pas du tout aux gamins qui sont irresponsables et un peu crétins, d'ailleurs, pour certains, même s'ils parlent très bien à la télévision. J'en veux au pouvoir public, au ministre de l'Intérieur, l'Éducation nationale, au gouvernement, qui devrait arrêter ça tout de suite. Éventuellement, on ferme l'école pendant 3 mois, on met tout à zéro, et voilà. Ou on la déplace ailleurs, et on reprend tout à zéro.
Ça a toujours été les mobilisations politiques dans les facs.
Donc, ça veut dire que l'État ne fait pas son boulot. Il y a des pays où il y a des écoles de sciences politiques. Je peux te dire, ça ne se passe pas comme ça, à la moindre dérive, on arrête. Mais en France, comme on considère que ça fait partie du débat idéologique, que c'est la liberté, que c'est la démocratie, on laisse des gens qui sont là pour apprendre, foutre la merde dans leur université et empêcher les autres de travailler. Je peux te dire que dans d'autres pays démocratiques, ça serait vite réglé. On a vraiment ici affaire à des couilles molles.
En fait, la différence, c'est que le milieu universitaire a toujours effectivement été un milieu de débat, d'hormones de jeunes politisés, quoi, qui sont au début de leur vie politisée et qui ont envie de s'exprimer. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une dérive de ça. Cette dérive, elle est dans la violence, en fait. Parce que ces blocages-là, ce ne sont pas simplement des blocages. C'est des jeunes qui sont prêts à en découdre et qui sont prêts à faire office de pression et de violence sur ceux qui pensent l'inverse d'eux et sur ceux, par exemple, qui, eux, soutiendraient Israël. Je peux vous assurer que le débat ne sera pas cordial et qu'il ne l'est pas et qu'il y a des gens à Sciences Po qui actuellement rasent les murs. Rasent les murs parce qu'ils veulent pas de problème avec ces meutes qui s'attroupent devant l'école. Et on a vu avec beaucoup de choses qui sont comme ça. Et il y a aussi un autre problème, c'est que parmi ces gens-là qui bloquent, il y a effectivement des discours extrémistes qui font l'apologie du Hamas. Ce n'est pas l'entièreté du discours pro-Palestine, je le dis, mais pour ces gens-là, je peux vous le dire, c'est des gens qui sont pro-Hamas, qui pour certains font l'apologie du terrorisme et des actes du 7 octobre, ou alors qui ont carrément oublié que le 7 octobre a eu lieu, et donc C'est là que j'ai un problème.
Comme il y a pu avoir un problème dans certaines universités françaises, notamment avec des syndicats d'extrême droite comme le GUD.
Ah bah évidemment, moi je suis pas, je ne soutiens pas le GUD, hein. Vous êtes.
Non mais je précise.
Enfin, je n'ai rien à voir avec le GUD en fait, donc.
J'ai jamais dit ça.
Oui,
hein.
Tout à fait.
Tout à l'heure.
Il y a l'illégal et il y a pas et il y a la liberté d'expression. Donc je la prône pour tout le monde et après il y a dépasser la limite du légal. Donc l'apologie du terrorisme.
D'accord.
On avait fait ça. Justement là on est bien au-delà de la à la fois de la liberté d'expression et d'un engagement politique qui est tout à fait, enfin je veux dire, qui est même sain. Hein, pour des jeunes hein, de l'avoir. Là, on est aujourd'hui, en tous les cas, cet après-midi, à ce que Rima Hassan appelle au soulèvement. C'est quand même on a quand même passé un cap. On est à une incitation.
C'est pas nouveau. Mais Jean-Luc Mélenchon qui lors de la campagne présidentielle dernière en 2022, qui appelait les Français à marcher sur Paris, non pas à prendre les armes, mais bon, il appelait. Enfin, il y avait quand même.
Voilà, le soulèvement, c'est tuer les Juifs. Ouais. Hein, non, dans la tête des extrémistes.
Savoir,
hein.
Il faut quand même savoir qu'Assyrie aujourd'hui participe à cette espèce de sitting là, un groupe qui est pro-Hamas. Dire que c'est pas un qui s'appelle Urgence Palestine. D'accord, dire c'est pas un groupe qui est pour la paix, c'est pas un groupe qui est pour la solution à deux états, d'accord, c'est un groupe qui soutient une organisation terroriste, le Hamas, qui a été à l'origine du pogrom le plus sanglant contre les Juifs depuis la Shoah. Donc, si vous voulez, on en est à un stade où on est à l'incitation, en fait, à la haine et au soutien à des organisations terroristes.
Oui, je tiens juste à préciser, c'est ton interprétation, Yael. Le comité Palestine de Sciences Po a fait un communiqué de presse ce matin. Je dis ce qui est exactement ce que disent. Le comité réclame notamment la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po et la fin des collaborations avec toutes les institutions ou entités jugées complices de l'oppression systémique du peuple palestinien. Voilà ce que dit ce comité.
Mais ils sont fous, mais Sciences Po n'a pas fait. D'accord, mais ils sont fous, Sciences Po n'a pas fait de déclaration.
Et donc, ils ne demandent pas la libération des otages, par exemple.
Et puis, Total et la SNCF aussi pendant qu'on y est. Voilà, et puis la sécurité sociale.
Charles Matin, constatez-vous une baisse des prix dans les supermarchés? Fini les hausses démesurées des prix des produits de consommation courante, puisque l'inflation en France s'est actuellement stabilisée à 2%, et donc on constate même des baisses importantes sur certaines catégories, comme nous le dévoilait ce matin Emmanuel Le Chypre. Écoutez bien.
Oui, sur un an, les prix des produits de grande consommation et des produits frais en libre-service ne sont plus en hausse que de 0,5% en avril 2024 par rapport à avril 2023. C'est ce que nous dit le baromètre LSA Circana. Et les baisses les plus spectaculaires sont enregistrées sur les produits d'entretien et surtout sur le rayon hygiène-beauté. Moins 6% sur un an sur tout ce qui est soins du corps, soins du visage ou après-shampoing. On voit là sans doute les premiers effets de l'encadrement des promotions imposé par la loi d'Escrozaille qui est entrée en vigueur le 1er mars. Le but, c'était de redonner de l'air aux industriels pour leur permettre de pratiquer des prix plus bas toute l'année. Eh bien, ça semble fonctionner.
Perico, est-ce que tu l'as constaté? Je ne sais pas si tu fais les courses.
Oui, alors, comme on constate, une fois que l'incendie est terminé, la maison est brûlée, il n'y a plus de flammes. Ben oui, évidemment, tout a brûlé. L'incendie est éteint. Ben oui, tout a brûlé. Donc, les prix. Non, mais c'est extraordinaire. La palisse et le roi est nu. Effectivement, les prix. Ça y est, ils sont augmentés. Ah, ça s'est arrêté. Bah oui, mais puis d'abord, c'est pas tout à fait vrai.
C'est même plus nuancé que ça. C'est que les prix augmentent moins vite.
Voilà.
Et qu'il y a certains produits
qui baissent.
Qui,
légèrement.
Voilà, peut-être légèrement, mais est-ce qu'ils sont arrivés à quel niveau?
Leclerc va nous dire qu'il nous fait gagner de l'argent. Les baisses ont baissé, vous gagnez de l'argent grâce à moi. C'est ce qu'ils vont nous dire, les grands distributeurs.
Allez, on termine avec Apolline Matin. Pour ou contre des cabines à bisous dans les trains? C'est très sérieux. Mais c'est très sérieux. C'est ce que vient de lancer la compagnie allemande ICE.
On n'est pas le 1er avril.
Dans ses TGV. Désormais, si vous voyagez en Allemagne, vous pourrez avoir accès à des cabines intimes permettant d'y faire, entre autres, des bisous. Ce n'est pas une blague. Et c'est Martin Bourdin qui nous en parlait ce matin sur RMC.
Un train qui sera équipé de Knutsch Abteil. C'est plus poétique en français puisque ça veut dire cabine à bisous.
Cabine à bisous.
Eh oui, des cabines à bisous, des espaces de 2 mètres de longueur, 70 cm de largeur qui permettra aux passagers de passer des moments en toute intimité. Voilà la promesse des cabines pour deux personnes assises face à face. Un comportement presque normal finalement. avec un petit détail près, un petit bouton sur l'accoudoir qui permettra de rendre complètement opaque la vitre, transparente, et donc vous offrir un espace complètement intime, tranquille. C'est la fameuse cabine à bisous, donc à l'opposé des carrés familles qu'on peut connaître dans le TGV.
C'est clair, c'est pas tout à fait la même
non,
ambiance.
Non, c'est pas la même philosophie. Peut-être que l'occasion aussi de faire passer les voyages un peu plus vite.
Je veux te voyais tapoter à l'instant sur ton portable, Perico Legas. Es-tu déjà en train de réserver un billet?
J'ai loué le wagon en entier.
Et il m'a gentiment invité.
Vous faites ce que vous voulez.
Il faut bien tester. Ah oui. Il faut des cobayes. Bon, ça s'appelle un bordel sur rail. Hein. C'est un bordel roulant. Vous imaginez,
ça c'est un bordel.
C'est surprenant, non?
Non, on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait bien déraper, quoi?
Parce que la mafia, une mafia des pays de, comme ça, de pas loin, va louer le, voilà, puis il y aura des
Ah ouais.
Mais c'est la suite, hein, certainement.
Non, mais à titre personnel, moi je me dis, sincèrement.
Ou alors on sourit, mais bon.
Sans m'imaginer, d'aller trop loin, mais si vous me donnez la possibilité d'avoir 4 heures de train et je suis avec mon chéri, il me dit on peut avoir notre petit truc, notre petit enclos à nous.
C'est plus sympa que le carré avec les enfants que tu connais pas en face, oui.
Voilà, je me dis oui, mais je veux dire, ils se mettent en danger. En vrai, moi, je les laisse tester, hein, mais à mon avis, il va y avoir vite des dérapages. Enfin, je pense que c'est
un billet ou pas.
Ah non, moi je prends pas de billet. Non.
Pourquoi?
Oh, bah attends, ça va, on n'est pas obligé de peut rester obligé, pendant 4 heures ou 2 heures ou 3 heures sans se bécoter ou sans
Non.
En même temps, j'ai c'est peut-être l'âge aussi.
Ils vont pas faire des zipampan quand même dans le train.
Notre réalisateur me fait une très bonne blague dans l'oreillette en me disant ça va sûrement dérailler.
Ouais. Oh, si, oui,
je crois qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup.